projection privée.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Samuel Collardet pour son film Tempête. Samuel Collardet, c'est votre troisième film. Vous aviez été remarqué dès le premier film L'Apprenti avec le prix de Luc du meilleur premier film. C'est un film qui avait beaucoup, beaucoup marqué en 2008. Puis suivi par un autre film Comme un lion de 2013, suivant les mêmes méthodes que j'appellerais semi-documentaire, mais c'est ça qui est passionnant dans votre travail. Et ce film Tempête a été couronné au Festival de Venise pour son interprète. C'est pour ça que va se poser très vite dans notre conversation ce problème du jeu de l'acteur, donc Dominique Le Borne. Ce qui est très intéressant, c'est que ce film faisait partie de la catégorie Horizonti, Horizon, qui est un peu l'équivalent à Venise du Certain Regard de Cannes, et que Dominique Le Borne a été sacré meilleur acteur dans cette compétition, alors que, on va voir pourquoi, c'est un marin pêcheur qui n'a jamais joué au cinéma, et il a fait jeu égal avec Fabrice Luchini, brillantissime évidemment comédien, dans l'Hermine, dans la compétition officielle de Venise. On avait vraiment deux formidables comédiens, l'un qui n'avait jamais joué, et l'autre qui est évidemment un des grands comédiens français. Donc c'est toute cette méthode dont vous allez nous parler. Vous étiez déjà venu pour L'Apprenti, parler de votre cinéma. Donc il s'agit cette fois-ci d'un marin pêcheur. Vous aviez choisi d'abord un cultivateur dans votre premier film, puis dans le second un footballeur, et là c'est un marin pêcheur. Les deux premiers films étaient dans votre région, la Franche-Comté, d'où vous venez, et là au contraire vous êtes du côté de l'Atlantique. Un marin pêcheur de 36 ans, qui est rarement à terre, qui a la garde de ses deux enfants, qui rêve d'acheter un petit bateau de pêche, voilà, qu'il ferait exploiterait avec son fils. Mais c'est un film, entre autres, parmi les thèmes du film, c'est le problème entre la vie privée et la vie professionnelle, puisque en étant en haute mer, eh bien, il peut pas s'occuper de ses enfants. Alors, comment est né ce film? D'habitude, vous avez une idée de film et ensuite vous allez vérifier dans la réalité si vous trouvez la confirmation de cette idée.
Oh non, pas vraiment. À chaque fois, c'est quand même le point de départ, c'est une rencontre. Depuis L'Apprenti jusqu'à Tempête, on se dit voilà, on aimerait visiter ce monde-là, cet univers-là, et après on essaye de rencontrer des personnages, des histoires. Alors dans l'idéal, c'est de trouver une personne qui est un comédien, on va dire, qui a les qualités d'un comédien de cinéma, c'est-à-dire une présence, un charisme, et aussi qui est porteur d'une histoire, hein, voilà, qui est porteur de l'histoire du film. Et là, on arrive, on touche au but, c'est-à-dire que quand j'ai eu terminé L'Apprenti, donc qui était un film documentaire, j'ai eu cette envie d'avoir un peu plus de récits, de dramaturgie, de voilà. Et donc j'avais trouvé cette histoire de ce footballeur sénégalais, donc qui se fait arnaquer par un agent vers eux. Donc c'est un peu, voilà, c'est un fait divers. J'avais rencontré ce jeune footballeur au centre de formation de Sochaux. Et malheureusement, ce jeune qui s'était fait arnaquer, dont la famille avait investi énormément d'argent et d'espoir en lui, arrive en France et finalement se fait avoir et abandonné dans les rues de Paris. Lui n'a pas voulu en fait passer devant la caméra parce qu'il avait peur justement que sa famille au Sénégal le reconnaisse et apprenne ce qui s'était passé, parce qu'il n'a jamais avoué réellement l'arnaque et toute la misère qu'il a vécue après. Donc on a dû passer justement par un casting. Alors même si je n'ai pas choisi un acteur professionnel pour interpréter le rôle, c'est quand même un casting d'un jeune qui était quand même finalement assez éloigné de l'histoire du personnage principal. Et donc c'est de la pure interprétation en fait. Alors que là, on a réussi à trouver effectivement, enfin à convaincre Dominique Le Borne de jouer sa propre histoire et son propre rôle, et de rejouer en fait l'histoire qu'il avait vécue quelques années auparavant.
Et qu'est-ce qui vous avait poussé à quitter l'Est de la France pour l'Ouest ?
Alors ça, c'est Catherine Payet, c'est la scénariste avec qui je travaille, que j'ai rencontrée à la FEMIS. On était donc dans la même promotion avec Grégoire Debailly aussi, mon producteur. On s'est rencontrés à la FEMIS, on a commencé à faire des courts-métrages ensemble, et puis voilà, ça fait bientôt 10-12 ans qu'on travaille ensemble. Et elle, donc, est sablaise, originaire des Sables d'Olonne. Elle est originaire aussi d'une famille de marins-pêcheurs. Et elle avait voulu réaliser un court-métrage en 2009 sur un jeune matelot. Voilà, et en cherchant... Pareil, on travaille ensemble, donc on a un peu les mêmes goûts aussi. Elle voulait faire un casting sauvage, trouver un vrai matelot. Et donc, en cherchant son jeune matelot, elle est tombée sur Dominique, parce qu'il naviguait sur le même bateau. Et voilà, ils se sont liés d'amitié. Et puis, suite à ça, régulièrement, ils s'appelaient au téléphone pour se donner des nouvelles, etc. Et donc, Dominique, à l'époque, était en train de divorcer. Ses enfants, Maëlys et Mathéo, qui avaient 15 et 16 ans, ont décidé à ce moment-là, malgré... le métier de Dominique, donc qui est marin-pêcheur, qui fait le grand métier, donc il part 2 semaines, 3 semaines en mer, il rentre un week-end, il repart. Malgré ça, les enfants ont voulu aller vivre avec lui. Voilà. Et donc un jour, Dominique rentre d'une marée et Maëlys lui annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Et ça c'est une vraie histoire, c'est l'histoire qu'ils ont vécue et Dom la racontait régulièrement à chaque fois que Catherine prenait des nouvelles, il lui racontait ça. Donc elle à ce moment-là, elle a engrangé tout ça comme une scénariste, voilà. C'est une éponge, voilà, qui englobe tout, qui engrange toutes ces histoires. Et une fois qu'on a eu Fini comme un lion, on réfléchissait au prochain film. Et elle avait très envie depuis très longtemps de m'écrire un film qui se passait dans le milieu de la pêche. Voilà. Et là, elle s'est dit qu'elle allait me présenter Dom parce que à la fois ça réunissait son envie à elle de faire un film sur le milieu de la pêche et elle savait aussi que l'histoire de Dominique allait me parler puisque ça croisait encore les thèmes que j'avais déjà un peu traités dans L'Apprenti et dans Comme un lion, qui sont la filiation, la place du père, etc.
Oui, puisque dans L'Apprenti, effectivement, c'était un vieux paysan qui prenait en charge un jeune garçon, l'apprenti, justement, du titre. Et puis, dans Comme un lion, c'était Marc Barbet qui jouait un entraîneur de football et qui prenait sous sa protection ce jeune Sénégalais. Et encore une fois, on retrouve ici le thème de la filiation avec les enfants de Dominique Leborne qui jouent leur propre rôle aussi, Mathéo, donc le garçon, et Maëlys Leborne. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que votre cinéma intervient aussi dans la vie des gens, dans la mesure où Maëlys Leborne, cette fille qui s'était fait avorter, qui était très jeune, elle était en froid avec son père depuis 2 ans. Donc votre film est intervenu pour finalement opérer une forme de rapprochement.
En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette façon de faire du cinéma, c'est que à la fois le réel nourrit le scénario, nourrit la mise en scène. Et en même temps, le fait d'en faire un film va aussi changer leur réel, leur réalité, leur vie. Alors, quand je dis changer leur vie, c'est pas d'un coup Dominique Leborne, marin pêcheur, va devenir une star du Festival de Venise. C'est pas ça. Moi, je pense plutôt à quand on fabrique le film. Le fait de fabriquer le film modifie le cours de l'histoire, en fait. Et donc je pense notamment on va pas dévoiler le film, mais l'avant-dernière scène du film, il y a une conversation entre Maëlys et son père Dominique qui n'avait pas eu lieu en fait dans la vraie histoire. Voilà. Cette histoire n'avait pas eu de conclusion. En fait, quand je rencontre Dominique et que je commence à faire le film, Maëlys et Dominique sont en froid. Voilà, cette histoire n'est pas réglée en fait. Et moi, je propose de justement conclure cette histoire au moment du tournage. C'est-à-dire, nous, on a tourné sur 10 mois, une semaine par mois à peu près, voilà, pour avoir justement du temps de réflexion, pouvoir monter, changer le scénario, improviser par rapport à ce qui se passait réellement dans la vie de Dom, etc. Et au bout des 10 mois, en fait, moi, je propose cette conversation qui va faire que en fait on crève l'abcès, voilà, le papa et la fille vont crever l'abcès et vont se dire des choses qu'ils ont depuis quelques années sur le cœur et on fait une prise unique, hein, c'est un plan séquence de 5 minutes et c'est vrai qu'aujourd'hui Dominique, souvent quand il en parle dans les salles de cinéma, avec les rencontres avec le public, ce qui est chouette, ce qui est beau, c'est que il dit que le film, en fait, a conclu l'histoire, a donné une fin à leur propre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Maëlys, maintenant, elle a 19-20 ans, elle a rencontré quelqu'un, elle vit avec lui, et elle est enceinte. Voilà, elle attend un petit bébé pour le mois de juillet. Et aujourd'hui, quand elle voit le film, elle en est fière, parce que à l'époque, à 16 ans, quand lui est arrivée cette histoire, elle a été très décriée, en fait, par la famille, par les amis, par les copines, les copains, hein. Elle a été montrée du doigt. Et aujourd'hui, en fait, bon voilà, il y avait 600 personnes à l'avant-première des Sables d'Olonne. Le film fait la une de l'Ouest France tous les jours là-bas. Donc voilà, c'est devenu aujourd'hui la fille du film. Quand elle va faire ses courses au Sables d'Olonne, maintenant on la montre du doigt, mais parce que justement les gens ont vu le film et la trouvent formidable et s'identifient à son histoire et s'identifient à elle. Et Dominique, maintenant aujourd'hui, il dit que en fait le film, voilà, a fait que on a clôturé, on a fini cette histoire et on a maintenant Maëlys, elle construit autre chose sur voilà. Enfin c'est assez beau, voilà, c'est le film a servi à quelque chose en fait.
Alors, le tournage en mer, parce qu'il y a tout de même des séquences de mer aussi, peut-être moins que ce qu'on attend, étant son métier, mais il y a tout de même, c'est un domaine que vous ne connaissiez pas, la mer.
C'est vrai, ça a été finalement très exotique pour moi. Moi, je suis un terrien, je viens de Franche-Comté, donc j'ai grandi très loin de la mer. En même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de dispositif et dans ce genre d'aventure cinématographique, c'est découvrir un monde, s'immerger dedans et apprendre.
Mais comment ça se fait un tournage en mer assez compliqué, parce qu'il n'y a pas la stabilité
Techniquement, c'est compliqué. Moi, j'avais fait des essais pendant l'écriture. J'avais embarqué pour voir si déjà j'avais pas le mal de mer. Parce que c'était un petit peu, voilà, dire bon, ok, on va s'engager dans un tournage de bateau et tout ça, mais est-ce que si tu tiens pas deux minutes sur un bateau, c'est compliqué. Et en fait, ça avait plutôt bien marché. Et puis finalement, la première semaine de tournage, on a embarqué, on a été malade comme des chiens pendant les deux premiers jours. Très naïvement, j'avais demandé au capitaine de partir une marée, c'est-à-dire deux semaines. Puis il me dit oui, oh tu sais, on peut rester pas loin, on peut, c'est pas grave, machin. Je dis non, on part. Et puis bon, finalement au bout de 6 heures de mer, on le suppliait de rentrer le soir et il me dit bah ça tombe bien, on n'est pas allé très loin, donc on va pouvoir rentrer effectivement. Et puis non, mais après oui, il y a aussi très naïvement de ma part, il y avait cette scène de tempête. Et je pensais pouvoir la filmer en documentaire, voilà, comme j'ai le plaisir à le faire. Et alors que c'est juste impossible, quoi. On tourne en 35 mm avec une caméra qui pèse, je sais pas, 17 kilos sur l'épaule. Voilà, on tient pas debout. Donc ça a été, voilà, encore, ben, à l'image du film, un mélange de plans effectivement documentaires et puis des plans qui sont beaucoup plus fictifs avec des moyens du cinéma. Et voilà, on essaye de mélanger ça pour que, à la fois, on a l'impression que ça soit très, très réaliste, très réel, et en même temps, on a réussi à faire des plans assez impressionnants aussi, mais avec les moyens très artificiels.
Alors, Samuel Collardet, le film commence de façon assez déconcertante dans un pub où, en Angleterre. On se croirait dans un film de Ken Loach, presque une sorte de coup de chapeau à Ken Loach, avec lequel vous avez évidemment des ressemblances sur certains points de vue de la méthode de tournage. C'était quoi cette amorce anglo-saxonne?
En fait, on voulait raconter ce que c'était que une marée, enfin le quotidien de ces marins, parce que donc qu'ils soient vendéens ou bretons, les mecs qui font le grand métier, ce qu'on appelle le grand métier, ils partent 15 jours, 3 semaines et vont souvent au sud de l'Irlande pêcher en fait. Et quand il y a mauvais temps, quand il y a une panne, quand ils doivent les cales sont pleines et que peut-être ils veulent justement vendre un peu de poisson pour faire de la place dans la cale, et ben ils débarquent en Irlande. Et donc c'est aussi ça le quotidien d'un marin, c'est parfois ben de passer une nuit à terre en Irlande et puis de d'aller dans les pubs, faire la fête, etc. Donc c'était important. On voulait faire ça. Et puis finalement, au montage, on s'est aperçu que cette scène en Irlande allait commencer le film. Et du coup, ça donne finalement un timbre très très lotchien. Il y a aussi la scène du mouton qui fait aussi penser beaucoup à. C'est pas des clins d'œil conscients à Ken Loach. Les marins vont en Irlande, donc on fait une scène en Irlande. Dominique a l'habitude, mais en tout cas moi j'ai assisté à ces courses après les moutons dans les prés. Et voilà, on va filmer ça. Et effectivement, ça ressemble très clairement à la scène d'ouverture de Rolling Stones. Mais c'est pas des clins d'œil, c'est pas des clins d'œil au maître. C'est plutôt le hasard et peut-être le fait qu'effectivement, on soit quand même dans une même famille de cinéma qui fait qu'il y a des ressemblances.
Oui, c'est ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif.
Voilà. C'est ça.
Alors, donc, vous avez donc passé beaucoup de temps avec Dominique Le Borne dans la vie avant de l'engager. Est-ce que vous étiez décidé de le prendre comme acteur tout de suite ou est-ce que
c'est en découvrant
petit à petit que vous voyez son potentiel?
Non, ça fait partie entièrement du dispositif. C'est-à-dire que, Catherine me le présente, moi je passe, j'y viens une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, voilà, boire un coup, boire un café, discuter. Quand on se dit avec Catherine et Grégoire, on se lance dans l'aventure, je me dévoile à lui, je lui dis voilà, j'aimerais faire un film avec toi. Mais c'est clairement, il est hors de question que ce soit quelqu'un d'autre qui joue son rôle ou qui joue le rôle de Maïlis ou de Mathéo. C'est presque même plus important même que le scénario en fait, le fait que ce soit eux qui jouent leur propre rôle. C'est ça le dispositif, vraiment la base même du film, c'est ça. Après, on essaye d'écrire le scénario, de construire une dramaturgie, une colonne vertébrale narrative, etc. Mais la base, le socle, c'est ça. Si Maïlis me dit en fait non, je ne veux pas faire le film, tout s'écroule. Enfin, moi, je m'imaginais pas prendre une comédienne pour jouer ce rôle. Non, ce que je voulais, c'était filmer justement. J'avais déjà en tête cette dernière scène où un père et une fille allaient se parler réellement et que cette scène avait été vraie. Voilà, c'est pas genre une comédienne qui va jouer, qui va parler avec Dominique, enfin qui va interpréter des dialogues que moi j'aurais écrits. C'était pas ça. Enfin, si c'était, enfin voilà, ce film-là, je l'aurais pas fait en fait. Donc c'est très important. Après, oui, c'est sûr que il y a un truc qui est aussi très important dans ce genre de dispositif, c'est la confiance, c'est le contrat de confiance qu'on passe entre le filmeur et le filmé. Il faut que Dominique, Maïlis, tout ça aille vraiment jusqu'au bout de l'aventure. Si d'un coup, en cours de route, ils sont dans le retrait, s'ils donnent pas vraiment tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion en fait, donc il n'y a pas de matière pour le film. Donc il faut vraiment que, et en même temps, moi, il faut que j'aie confiance dans cette possibilité qu'ils aillent jusqu'au bout, et puis il faut qu'ils aient eux confiance en moi de savoir qu'est-ce que je vais faire de leur histoire. Et ça, c'est très important. Et donc ça se construit, c'est pas instantané, ça demande énormément de temps. Et c'est vrai que moi, par exemple, la période d'écriture, un film classique de fiction aujourd'hui en France, le développement du scénario, c'est à peu près une année minimum. Nous aussi, mais cette année-là, on va effectivement passer du temps à écrire. Mais moi, en parallèle, je passe la moitié de ce temps-là à vivre avec Dominique Le Borne. C'est-à-dire que pendant tout l'hiver 2012, 2013, je ne sais plus, là où justement où il a un problème financier, il a plus d'argent, il a plus de mazout pour payer le chauffage et l'eau chaude. Moi, je passe mon hiver à dormir chez lui, sur le canapé, à côté du chien, là, comme dans le plan avec Mathéo. Voilà, j'ai passé l'hiver avec lui à traverser ces moments de galère, traverser ces périodes-là. Et c'est justement une période où on se lie. Voilà, on se lie d'amitié, de confiance. Et quand le premier jour de tournage commence, en fait, on est déjà très, très, très proches. Et ça, c'est très important. Voilà.
Mais alors, dans ce genre de dispositif, qu'est-ce qui se passe avec le scénario, dans la mesure où vous avez écrit des dialogues? Alors, je suppose que vous retravaillez peut-être en fonction des aléas ou des surprises du tournage, vous retravaillez le dialogue qui était déjà écrit, et puis il doit y avoir aussi des scènes qui, elles, sont totalement improvisées.
En fait, aujourd'hui, quand on voit le film, on peut se dire qu'il y a à peu près 50% des dialogues du film qui étaient écrits, voilà, qui ont été rejoués, interprétés par Dominique, voilà, comme un acteur professionnel, on va dire, voilà, qui, je lui donnais les scènes la veille, il apprenait le texte, et puis je lui demandais d'interpréter. Alors, en fait, assez instinctivement, il faisait comme les acteurs professionnels, il allait rechercher en lui des émotions déjà vécues. Alors souvent, bah, justement, ça collait à la scène, parce que effectivement, les scènes racontaient des choses qu'il avait vécues précédemment, ou même des choses, des sentiments qu'il avait équivalents qu'il avait vécu auparavant. Après, effectivement, l'idée de mon dispositif de tourner sur la durée, c'est aussi de pouvoir réécrire au fur et à mesure du film, enfin du tournage. Là, je vois qu'il y a tout un personnage qui a complètement disparu, en fait, du film. Toute une partie qui a complètement disparu du film. Mais d'autres choses qui sont arrivées, parce que c'est arrivé en cours de route dans le réel. Notamment ce qui se passe avec Matteo. Sans dévoiler le film, à un moment donné, Matteo annonce que il veut arrêter l'école des pêches. Ça, c'était pas dans le scénario. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est super dans cette scène-là, c'est que on voit bien comment ça peut se fabriquer. C'est-à-dire que donc première semaine de tournage, on est en mer sur le bateau. Dom reçoit un texto de Matteo lui annonçant que il arrête l'école des pêches. Dom est fou furieux, voilà, très déçu, etc. Il me dit ah ben quand je vais rentrer, on va en discuter, tu vas voir, je vais. Hein. Je lui dis ok, d'accord, mais attends-nous. Parce que moi, je veux filmer cette conversation, mais en documentaire, voilà. Donc, quand on rentre, je les sépare, il y en a un qui est dans la cuisine, l'autre qui est dans la salle à manger, je leur dis, attendez, on prépare vite la caméra, on filme en plan séquence cette conversation-là. Et ça, c'est en début de tournage. En début de voilà, on est au tout début du tournage. Et puis, au fur et à mesure, le monteur, à chaque fois qu'on voyait les rushs, la scène avait été prémontée, tout ça, le monteur me dit, elle est très bien la scène, hein, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Je suis sûr qu'en la retournant et en leur demandant de rejouer, on peut faire mieux en resserrant les dialogues et peut-être en y rajoutant des choses et tout ça. Donc en fait, on a réécrit la scène à partir de ce plan documentaire qu'on avait filmé, en y rajoutant des choses, et après je leur ai demandé de rejouer. Voilà, et là, au lieu de faire une seule prise de plan séquence, on a fait 25 prises, parce que c'était compliqué. Voilà, ils ont eu du mal à s'y mettre, machin. Et aujourd'hui, la scène, je la trouve formidable. Et elle criante de vérité, alors qu'en fait, elle était ni dans le scénario, on l'a tournée en documentaire, et puis finalement, elle se retrouve dans le film en scène de pure fiction. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de registres différents dans le film, à la fois effectivement des scènes qui sont complètement improvisées, où je propose une situation ou un sujet de conversation, comme dans L'Apprenti, et puis je filme de manière documentaire. Et puis il y a des choses qui sont plus ou moins dirigées, et puis des choses qui sont très 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 précises. Voilà.
Mais il n'y a pas de borne pour la famille Le Borne dans ce film, puisque la mère joue aussi, l'oncle joue aussi. Enfin, il y a toute la
famille. En fait, quand justement j'ai passé cette année d'écriture avec lui, c'est à la fois effectivement un moment où je me rapprochais de lui, je remplissais mon petit panier de situations que j'allais remettre en scène, je me nourrissais. Puis je sais aussi mon casting, puisque pour moi tous les rôles devaient se jouer par les vrais gens qui est dans leur propre rôle, dans leur propre environnement. Donc je faisais aussi, alors, le midi on allait boire le café chez la maman de Dominique, donc j'ai très vite compris que c'était la confidente. Donc elle allait avoir un rôle dans le film et c'est elle qui allait le jouer, et pareil pour les amis, les copains, etc. En fait, il y a que trois acteurs professionnels dans le film et qui ont vraiment des tout petits rôles, en fait, des apparitions.
Oui, mais en même temps, c'est des petits rôles, mais des rôles importants. Il y a le patron tout de même.
Il y a le patron
voilà. De Dom, ouais. C'est pas rien. Et puis il y a le banquier tout de même qui lui refuse qui lui refuse d'avance. Alors voilà, vous n'avez pas trouvé un banquier.
Et puis voilà, c'est une ex-femme aussi, qui est quand même aussi un personnage important, puisque c'est l'ex-femme de Dominique qui va du coup demander la garde des enfants. Alors les banquiers, oui, les banquiers, c'est pas très surprenant en fait.
Vous n'avez pas pu trouver un banquier qui accepte de jouer un rôle pas très sympathique.
C'est ça, la banque, les banques sont très frileuses par rapport à leur image, donc ça, c'était pas très surprenant. L'ex-femme de Dominique, elle n'était pas contre le film, puisque même elle a même encouragé Maëlys à faire le film, mais elle ne voulait pas apparaître dans le film. Voilà, c'est voilà, je peux le comprendre. Mais moi, je suis pas sûr que j'aimerais qu'on me filme et jouer dans un film. Donc, et puis le patron du bateau, effectivement, il avait dans le scénario, enfin, un rôle un peu dur, un peu. Et en fait, le vrai patron du bateau, lui, c'est un grand gentil, et ça se voit sur sa gueule qu'il est gentil. Il aurait, on a fait des essais, hein, mais on n'y croyait pas deux secondes. Donc on est passé par un comédien.
Vous êtes sur France Culture, projection privée, Michel Simon.
Samuel Collardet, le film a une vraie dramatisation. Enfin, il y a vraiment des conflits très au cœur du film. Et j'en vois deux très importants. Il y a d'une part le conflit entre la vie privée, la vie de famille et le métier, c'est-à-dire que il faut qu'il fasse un choix, parce que s'il part tout le temps, d'ailleurs l'assistante sociale lui retire la garde des enfants parce que il est parti. Donc il y a comment équilibrer le travail et la vie privée. Il y a d'une part, il y a ça, et puis d'autre part, le rapport aux enfants, c'est-à-dire est-ce que il sacrifie son métier pour ses enfants, ou est-ce qu'au contraire ses enfants lui reprocheraient parce que l'image du père se perdrait de son aura, et donc il préfère finalement que le père soit ce qu'il est.
C'est ça qui était beau, en fait. Et puis aussi l'attente que lui porte sur ses enfants et sur son fils notamment. En fait, il est en train de perdre sa fille parce qu'il est trop absent. Et puis en fait, quand il décide de plus partir en mer pour être présent avec son fils et tout ça, il est en train de perdre son fils parce qu'il est trop présent. Il n'est plus le héros de la mer qui affronte les tempêtes. Il est du coup un papa classique, normal, qui a des problèmes d'argent, qui finalement n'est plus rien en fait dans les yeux de son fils. Alors ça, je trouvais ça assez beau. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est Dominique, lui, c'est un fils de pêcheur, un petit-fils de pêcheur. Enfin, c'est toute une dynastie, en fait. Et c'est vrai que traditionnellement, peut-être dans les décennies auparavant, c'était classique, quoi. Enfin voilà. Et aujourd'hui, donc lui, ben normalement, enfin, on va dire très classiquement, il projette la même chose sur son fils. Et ça m'a moi renvoyé à moi mon rôle de père aussi, ma position de père, et je pense que il y a beaucoup de papas dans nos auditeurs, et il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir père. On sait pas, voilà, on fait tous des conneries et tout ça, et on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette attente qu'on a auprès des enfants, enfin sur les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'on projette sur eux, peut-être des choses aussi que nous on a loupées, enfin voilà, c'est assez beau en fait, justement quand Mathéo lui annonce qu'il arrête l'école des pêches, c'est tellement cruel pour Dominique, mais en même temps c'est tellement dur aussi pour Mathéo de sentir le poids de l'attente de son père, parce que lui, il faut absolument qu'il devienne marin pêcheur comme lui, et comme Dom, et comme Dom, lui a été marin pêcheur comme son père, etc. Et donc ça, c'était voilà, c'est effectivement tout ça traite de la filiation, des rapports père-fils, et de ce qu'on espère être par rapport à l'autre.
Il y a aussi un autre, alors c'est pas un conflit véritablement, mais c'est un problème social, c'est de changer de statut social. C'est-à-dire que, à un moment, il veut, justement, c'est là où il va voir un banquier, etc., c'est qu'il veut couper la poire en deux, c'est-à-dire de plus faire de la pêche de haute mer, mais faire de la pêche quotidienne avec son fils, acheter un petit bateau, c'est-à-dire changer de statut, devenir entrepreneur, enfin, de ne plus être marin-pêcheur, mais entrepreneur. Mmh. Et alors, vous-même, vous êtes la preuve du contraire, puisque vous êtes fils d'ouvrier, petit-fils de paysan, vous êtes à la FEMIS et vous êtes réalisateur de films. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas... La société permet tout de même des passages d'une strate à l'autre, mais néanmoins, c'est un problème qui est exposé dans le film, que la difficulté de changer de statut social.
En fait, l'idée que Dominique arrête le grand métier et s'achète un petit bateau, c'est quelque chose qui est venu vraiment du réel, puisque en fait, Dominique, lui, ça fait des années qu'il parle que de ça. Un jour, d'acheter un petit bateau pour pouvoir naviguer avec son fils. Et effectivement, quand j'ai commencé à enquêter dans le milieu des marins pêcheurs au Sable-d'Olonne et notamment avec les armateurs, etc., moi je me suis aperçu que c'était très cloisonné. C'est-à-dire que les fils de matelots deviennent matelots et les fils de patrons deviennent patrons. Voilà. Alors à la fois par parce qu'il faut s'autoriser à le faire en fait déjà pour l'histoire de moyens, mais presque aussi une espèce de tradition en fait. Voilà, c'est enfin il y a plusieurs raisons, mais enfin voilà, en tout cas c'est un fait. Et puis du coup, moi, en réfléchissant un petit peu, c'est vrai que moi je suis fils d'ouvrier, et puis d'un coup je deviens cinéaste, mais moi je voyais l'autre coup, j'ai lu un article, je sais plus dans quel journal, il y a quand même sept fils d'ouvriers sur 10 qui resteront ouvriers. Donc c'est quand même une grosse, voilà, l'ascenseur social il marche, mais il est un peu au ralenti, quoi. Voilà, effectivement, le film parle un peu de ça aussi.
Alors, en même temps, ce qui est très beau aussi dans votre cinéma, mais c'était visible dès L'Apprenti, c'est que vous faites un cinéma du réel, mais avec toutes les séductions du romanesque. C'est-à-dire que vous tournez en 35 mm, vous tournez en scope, et vous êtes vous-même aussi à la caméra. C'est-à-dire que vous travaillez, il y a d'autres personnes mentionnées au générique, mais enfin, vous êtes à la photo aussi. Donc, ce souci que vous aviez peut-être même dès votre court-métrage, de donner à ce cinéma hybride, mélangeant fiction et documentaire, romanesque et réalité, de lui donner une valeur esthétique.
En fait, c'est venu vraiment au fur et à mesure. C'est pas une posture intellectuelle ou théorique. C'est venu comme ça. Moi, j'étais donc à la FEMIS en département images, donc j'apprenais le métier de chef opérateur. Donc, on m'apprenait tous les jours à utiliser une caméra 35, la lumière, le travelling, les mouvements de caméra, etc. Tout ça, toujours au service de la fiction et du récit. Et en parallèle, moi, j'étais à l'époque passionné par le cinéma documentaire. Donc, et puis, à force d'être opérateur pour d'autres réalisateurs, moi, ça m'a donné aussi envie de d'un coup faire mes propres films. Et puis, faire mes propres films. Mais justement, vu que j'étais intéressé par le cinéma documentaire, j'ai commencé à filmer le réel. Alors, je suis descendu, j'étais à la FEMIS, je suis descendu avec une petite caméra Super 16 en Franche-Comté, puis j'ai commencé à filmer ma famille, mes voisins, donc des paysans, des ouvriers, mais de manière sans prétention, sans forcément vraiment avoir même la prétention d'en faire un film, en fait. J'essayais de mettre en scène et de filmer des petits fragments du réel. Instinctivement, vu qu'on m'apprenait, moi j'avais appris à le faire, à filmer avec la pellicule, avec la lumière, avec les mouvements de caméra, etc., j'ai commencé à mettre en scène le réel, mais justement avec les outils de la fiction et avec la grammaire de la fiction. Voilà. Et au fur et à mesure que je continue à faire ce travail-là, Et ben on s'est rendu compte effectivement avec avec Julien Lacheret qui est avec mon monteur, on s'est dit c'est marrant, ça donne une forme hybride intéressante. Voilà, mais ça s'est fait vraiment au fur et à mesure comme ça, on s'est dit ah tiens c'est rigolo parce que à la fois il y a une force du réel très forte et en même temps il y a des codes narratifs, les codes esthétiques de la fiction. Donc j'ai continué ce travail-là pendant la FEMIS et puis quand j'ai dû réaliser mon film de fin d'études pour le diplôme, j'ai fait un film comme ça sur des paysans, voilà. Et le film a plutôt bien marché en festival et après on m'a proposé d'en faire un long métrage qui est devenu L'Apprenti, voilà. Et puis après au fur et à mesure j'ai eu envie de plus de récits, de dramaturgie et voilà. Et au fur et à mesure c'est ça s'est fait vraiment au fur et à mesure.
Alors ce qui est beau d'ailleurs dans votre filmographie, dans votre travail, c'est de voir que vous étiez complice à 4 ou 5, je sais pas, dès le départ. C'est-à-dire, dès la FEMIS, votre producteur était avec vous à la FEMIS, votre scénariste était avec vous à la FEMIS, votre preneur de son, je suppose aussi.
C'est ça, tout le monde.
Tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une équipe comme ça, soudée, qui se retrouve et qui, donc, vous ont suivi dans vos trois films.
Et en fait, la FEMIS, vu qu'ils enseignent tous les métiers du cinéma, en fait, forment des troupes de, comme les troupes de théâtre, mais là c'est des troupes de cinéma.
Mais dans votre cas, c'est même assez rare à ce point.
À ce point-là, oui. Mais on voit, par exemple, Thomas Caillé, son chef opérateur, il l'a rencontré à la FEMIS. Denise de Mustang, Denise Nguyen de Mustang, mais c'est la même chose.
Ils ont fait qu'un film, si je peux me permettre.
Oui,
ils
oui, mais, à ça, trois. Mais ça va venir.
Ça va, une certaine constance.
Mais ça va suivre. Mais oui, effectivement. Et en plus de ça, il y a un truc quand même qui est très singulier aussi, c'est que moi, je travaille avec une toute petite équipe. Et ça, par rapport à mes petits copains, effectivement, c'est vraiment singulier. Nous, sur L'Apprenti, on était 3 personnes. Là, on est 5, enfin 6, on est 5 techniciens plus une personne à la régie et à la logistique. Les 5 personnes, on est tous de la même promotion de la FEMIS. Alors, 5 techniciens plus effectivement Grégoire Debailly, Catherine Paillet, qui sont aussi dans notre promotion. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée de, voilà, on a commencé à faire des films ensemble, et puis on continue à apprendre à faire des films, et on continue, voilà, je crois beaucoup au l'effet de génération, voilà.
Qu'est-ce que vous attendez d'un producteur?
Moi, je suis assez comblé, puisque, j'attends un accompagnement artistique. Ce qui est le cas, puisque c'est Grégoire est souvent toujours en train de me proposer des sujets, des rencontres, etc. Donc et puis un accompagnement artistique au moment de l'écriture. Donc il est très engagé dans l'écriture du scénario, dans la dramaturgie. C'est presque un troisième auteur, en fait. C'est vrai qu'on signe le scénario à deux avec Catherine, mais en fait, Grégoire, il pourrait aussi le signer. Et puis, une prise de risque. Voilà. C'est vrai que, faire ce genre de film, il faut avoir le goût du risque, c'est sûr. Parce que, par exemple, bon, déjà, il n'y a pas d'acteur professionnel. Il n'y a pas de star. Il y a une façon de tourner quand même qui est très, très, très artisanale, très, ils s'engagent, par exemple, parfois, on s'engage même alors qu'on n'a pas tout l'argent. Enfin, on part dans l'aventure alors qu'on ne sait pas si l'apprenti, on est parti avec 200 000 euros. Enfin, c'est, voilà. Enfin, donc, moi, je suis assez comblé en termes de producteur. Voilà, j'aime bien l'engagement total de la personne. Je suis pas un réalisateur parmi d'autres. Voilà, c'est vrai qu'on sent que, donc, il y a un vrai engagement par rapport à mon travail.
Samuel Collardet, comme vous disiez que vous aviez fait jusqu'à 25 prises pour certains plans, est-ce que ça veut dire qu'il y a un énorme travail de montage ou est-ce que vous savez à peu près plus ou moins la prise que vous avez gardée?
Il y a un énorme travail de direction d'acteur, en fait. C'est ça qui... Les gens, quand ils voient le film, ont l'impression qu'il y a une espèce de fluidité du jeu d'un acteur non professionnel. Donc, C'est comme si c'était une nature, voilà, que Dominique Leborn est un surdoué du jeu et que j'avais juste à appuyer sur le bouton rouge de la caméra et que ça, c'était, non, en fait, c'est un vrai travail de direction d'acteur. Enfin, c'est ce que je disais justement à Grégoire à la fin du tournage. J'ai eu l'impression d'avoir quand même parfois fait une mise en scène qui était très simple, de simplifier au maximum la mise en scène. Parce que je passais 90% de mon temps et de mon énergie à faire la direction d'acteur. Alors, soit effectivement en faisant 25 prises, 30 prises, parce que venir les 20 premières, elles sont catastrophiques en fait. Ça pouvait arriver. Ou de trouver la solution, l'idée, le dispositif pour amener Dominique à la justesse de jeu que je voulais. Voilà, ça c'était très très important. Après le montage, finalement ce qui est bien dans ce genre de film aussi, c'est que le récit quand même reste très, enfin, ça laisse des possibilités de montage. En fait, le montage n'est pas verrouillé. C'est pas un scénario où justement telle scène, il y a une info, et donc du coup la scène suivante, il y a la réponse, enfin tout est A plus B plus C plus 1. Non, là en fait on peut vraiment bouger la chronologie des scènes. Enfin, il y a quand même une facilité, enfin une liberté de chronologie du montage.
Est-ce que le fait d'être à la caméra vous paraît important par rapport à votre travail de metteur en scène? C'est-à-dire, c'est vrai que Soderbergh le fait, Patrice Lecomte, il y a plusieurs cinéastes qui sont aussi à l'image. Je suppose que vous n'avez pas cadreur et chef opérateur. C'est les deux fusionnent, non?
Alors, moi, j'ai vu que j'étais donc en image à la Fémis, moi, j'ai appris mes premiers instants sur un plateau de cinéma, ça a été à la caméra. Et c'est en étant à la caméra que j'ai eu envie après de me mettre en scène. Et c'est vrai que c'est intuitif. Moi, je trouve que c'est la meilleure place en fait, parce qu'on est à la fois dans l'image et en même temps très près des comédiens. Il y a une proximité aussi avec les comédiens. Et en même temps, il y a un interlocuteur en moins. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai les compétences techniques de la caméra, j'ai pas à demander à un opérateur de faire ce que j'ai envie qu'il fasse, et en plus de ça, ça me permet de justement d'être vraiment entre la machine caméra et le comédien, et pas derrière avec un moniteur vidéo loin du plateau, etc. Enfin, il y a une, pour moi c'est effectivement comme un lion, j'avais demandé, parce qu'il y avait peut-être un peu plus de mise en scène et de direction d'acteur que l'apprenti. Enfin bref, c'était un dispositif un peu différent, donc j'avais eu un peu peur de me disperser, de me dire est-ce que je vais pas avoir trop de, ça va pas me disperser le... Et donc j'avais, pendant la première semaine, j'avais demandé à Charles Villelem, mon assistant, de passer à la caméra. Et en fait, au bout d'une semaine, je lui dis, excuse-moi Charles, mais je vais reprendre la caméra parce que je ne trouve pas ma place sur le plateau si je suis pas à la caméra. Alors aujourd'hui, et encore jusqu'à il y a quelques mois, je vous dis, j'étais sûr de ça, voilà. Et cet automne, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Le Bureau des Légendes, d'Éric Rochant, et je me suis retrouvé à diriger une grosse équipe avec 40 personnes, et j'étais derrière un petit moniteur vidéo et tout ça. Et finalement, j'ai réussi à trouver ma place, parce qu'il était hors de question que je prenne la caméra, c'était pas du tout le même dispositif de tournage. Donc et finalement j'y ai pris plaisir aussi, et même à travailler avec des acteurs professionnels. Donc vous voyez, comme quoi j'ai pas de dogme définitif, quoi.
Mais dans Comme un lion, vous aviez un formidable acteur qui est Marc Barbet, qu'on va voir bientôt dans un magnifique film Les Ogres, donc Léa Fener. Donc c'est un peu un cas exceptionnel dans vos trois films, celui de Marc Barbet.
On se partage d'ailleurs la même scénariste avec Léa Fener, Catherine Payet a coécrit aussi Les Ogres. Voilà. Mais pareil, c'est quelqu'un de la Fémis, on a partagé les mêmes bancs de la Fémis. C'était exceptionnel et moi j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Marc Barbet, c'est un comédien formidable. J'avais travaillé aussi avec Jean-François Stevenin sur le même film, Anne Cossens. Il y avait des acteurs professionnels, effectivement. C'était un mélange sur Comme un lion.
Oui, c'est bien, parce que sinon, si tout le monde faisait comme vous, le comédien serait réduit au chômage.
C'est ça.
C'est comme les musiciens pour Kubrick. Ils prenaient jamais de musique originale. Alors, le métier disparaissait, quoi. Mais, enfin, il y aura encore des acteurs professionnels. C'est heureux qu'il y ait aussi des amateurs qui deviennent formidables sous votre regard. Alors, oui, j'aimerais savoir que parmi les gens avec qui vous avez travaillé comme chef-op avant de devenir metteur en scène, est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont marqué ou vous avez appris un peu le métier aussi de metteur en scène?
Il y a quelqu'un aujourd'hui, je le dis depuis longtemps, hein, mais moi j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Nicolas Komeriki, qui était dans ma promotion. Voilà, il était un des 6 réalisateurs de ma promo, qui est un réalisateur russe. Voilà, alors que vous verrez pas ici parce qu'il vit à Moscou, il travaille à Moscou. Il a fait 2 longs métrages qui ont été sélectionnés à Un certain regard à Cannes. Et c'est quelqu'un, c'est devenu un ami très proche. C'est le parrain de mon fils. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi. Parce que c'est un réalisateur qui est très généreux dans la collaboration avec ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'en étant son chef opérateur, je participais au casting, je participais au scénario, je participais à la mise en scène. Voilà, c'est quelqu'un qui avait, enfin, on a eu une relation très forte de travail aussi. Aujourd'hui, je pourrais le dire, hein, c'est peut-être grâce à lui que j'ai eu envie et que je me suis donné le droit aussi de me dire, tiens, essaye de réaliser des courts-métrages et même lui m'a encouragé et même, voilà.
Et quels sont les documentaristes qui vous ont marqué?
C'est surtout, pendant 4 mois à la FEMIS, on a travaillé la forme documentaire. Alors, il y avait toute une série de documentaristes qui sont passés, comme Didier Nion, comme Denis Gerbrandt, comme Claire Simon, comme Philibert Depardon, etc. Toute cette vague de documentaristes des années 80-90. En travaillant avec ces gens et puis justement en faisant le documentaire de Nicolai, parce que donc il devait lui réaliser un documentaire et moi j'étais à la caméra, j'ai découvert que le réel se mettait en scène, parce que voilà, très naïvement, moi je m'étais pas jamais posé cette question là et le curseur de la maîtrise dans la mise en scène du documentaire, il est très variable. Il y a des documentaristes qui veulent surtout pas intervenir ou intervenir le moins possible dans le réel, et d'autres qui vraiment l'organisent complètement le réel. Alors on sait pas d'un coup si ça devient presque même de la fiction tellement c'est mis en scène. Voilà, et ça m'a passionné. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'impulsion en fait.
Et la fiction, parmi les cinéastes de fiction, il y a des gens qui vous ont marqué?
Moi, je suis donc issu d'une famille d'ouvriers non cinéphiles. Donc, nous, le cinéma, c'était plutôt les westerns. Voilà, je regardais les grands westerns avec mon père. Voilà, le dimanche soir. La cinéphilie, elle arrivait assez tard. À peu près quand j'étais en première terminale, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma. Et puis, quand je suis arrivé en BTS audiovisuel, il y avait un prof qui m'a ouvert une armoire un jour avec tous les grands classiques en VHS. Et là, j'ai commencé à dévorer, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est des. Je vois beaucoup de films, hein, et j'apprécie beaucoup de films et beaucoup de styles de films. Mais c'est vrai que moi, je me situe en tout cas en tant que cinéaste plutôt dans une famille qui irait de Renoir, Piala, Kechiche, Loach, voilà, c'est des Dardenne.
Et voilà, vous méritez cette compagnie. Merci beaucoup Samuel Collardet. Donc je rappelle le titre de votre film Tempête, qui est à la fois la tempête effectivement physique, mais aussi la tempête dans le crâne d'un homme, merveilleusement interprété par Dominique Le Borne. Donc le film est dans les salles depuis mercredi dernier et je le recommande chaudement. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. « Le conseil de la semaine, c'est un livre très original, très particulier, écrit par Jacques Torrance, qui s'appelle Le Brady, cinéma des damnés. Alors, ça, le cinéma des damnés, c'est presque un titre de film qui passe au Brady, qui est une salle mythique à Strasbourg-Saint-Denis, et dont Jacques Torrance a été le caissier pendant 2 années, mais qui est aussi un grand cinéphile et qui nous raconte la vie de cette salle et du quartier avoisinant, avec une succession de portraits, de personnages absolument incroyables, des clochards, des chômeurs fatigués, des SDF chinois, etc., qui peuplent cette salle, et puis aussi, bien sûr, les films que l'on retrouve, que l'on va programmer, qu'on va chercher dans les endroits les plus variés. Jacques Torrance, voilà, cette expérience du Brady qui a été rachetée, cette salle, qui est 60e anniversaire cette année, en oui. 2016, c'est le 60e anniversaire du Brady, qui est une salle comme le Styx, comme le Midi-Minuit, où on montre des films dont on ne parle pas, qui sont maintenant, toi-même, à la Cinémathèque française. Il y a de grands cinéastes qui ne sont pas admis à la Cinémathèque française, qui n'ont pas droit à une rétrospective, mais par contre, on voit des séries Z, des sadiques aux dents rouges, des Superman contre les femmes vampires, des Ilsa, la Houlouve, des SS.
Ah, celui-là, voilà. Celui-là, je pense pas qu'il passe à la cinémathèque. Il est trop sulfureux.
Voilà. Alors, comment vous êtes arrivé là, au Brady, et comment vous avez décidé d'écrire ce livre?
En fait, à la base, je voulais être scénariste. Et j'ai jamais vraiment été convaincu par mes scénarios. Mais donc, je cherchais un métier qui me permette d'avoir la tête libre et un peu de temps. Donc, j'ai décidé d'être projectionniste. Et je suis vraiment arrivé là par hasard, parce que j'étais pas... j'avais une cinéphilie assez classique, Hitchcock, Chaplin. J'avais fait la fac. Mais j'étais pas... les bisophiles, j'étais pas à fond dans ces genres. Donc, je connaissais pas bien le Brady. Mais j'ai découvert ce monde en y rentrant, donc en 2000... Et donc il y avait Moki, et puis il y avait aussi toute l'histoire de cette salle qui est devenue mythique parce que c'était la dernière. Sinon c'était une salle plutôt pourrie, entre guillemets. je pense que Kubrick aurait pas aimé. D'ailleurs je pensais souvent à Kubrick parce que je me disais mais on dit que c'est un perfectionniste maniaque, mais il avait raison. Enfin c'est un peu ce que je raconte dans le livre, la façon dont les films sont dénaturés, coupés, charcutés. On change les titres, on coupe les bobines, enfin. Mais je décris des projectionnistes alcooliques, des exploitants pas toujours très soucieux de la qualité des projections. Et donc voilà, alors comment j'ai écrit ce...
Vous prenez des notes quand vous étiez...
Au moment, non, mais vers la fin, ça devenait tellement fou. Je me suis dit, il faut que je garde des notes, mais je ne pensais pas être écrivain. Pour moi, la littérature, c'était quelque chose de... Je me sentais un peu intimidé. Pour moi, la littérature, c'était Zola. Enfin, c'était les grands noms, et je ne pensais pas du tout. Mais le fait de prendre ces notes, de les rédiger pour que d'autres puissent les lire, ça m'a... J'ai pris beaucoup de plaisir et du coup, j'ai passé des années à retravailler, à faire des recherches, à retourner dans la salle. Donc en fait, j'ai bossé quelques années, mais les personnes qui étaient là avaient travaillé depuis les années 70, 80 pour certains. Donc c'est comme un voyage dans le temps aussi. À la fois, je décris, ça se passe entre 2000 et 2010, tout en étant très concentré sur 2000 et 2003. Mais on parle du porno dans les années 70, on parle de... tout ce cinéma de salles d'exploitation. Et donc, c'est un peu ce que je disais, je ne sais pas si je suis allé jusqu'au bout, mais le Brady est devenu mythique parce que c'était la dernière à survivre. Le Midi-Minuit était mythique à cause de la revue, donc Midi-Minuit fantastique.
Il n'était pas loin d'ailleurs, il était sur les grands boulevards.
Oui, oui. Mais il a disparu parce qu'il est passé au porno. Et donc, du coup, le Brady se retrouvait être la seule salle. Et c'est pour ça que, pour une génération, elle a été importante.
Ouais. Est-ce que Moki a une influence sur la programmation?
Ah bah oui, puisqu'on passait quand même la moitié de la programmation, c'était ses films.
Oui, ça c'est une influence directe, mais en dehors de ça...
Oui, il avait les droits, par exemple, de La Nuit des Vers Géants. Il a Je me rappelle plus du titre, Les mille visages du docteur T. Non, je sais. Bon, bref, il a ramené des. Après, il y avait un programmateur qui tentait d'amener. Enfin, la période que je décris, elle est très particulière. C'est qu'à la fois on passe donc le cinéma bis avec les vampires, à la fois on passe du Mocky, et à la fois le programmateur essaye de tirer la salle vers quelque chose de plus cinéphile. Mais il y parvient pas. Puis en plus, la salle est un refuge pour clochards. Donc, du coup, ça est complètement tiraillé entre toutes ces choses opposées. Et donc, du coup, ça crée des programmations un peu bizarres, comme Baise-moi, L'esclave de Satan et Harry Potter, quoi. Enfin, on peut pas faire plus.
Plus
rocambolesque comme. Non, mais à la fois, il passait du Feuillade et puis en même temps, du jazz franco. Enfin, bon, donc c'était très. Et en même temps, les bisophiles ne venaient plus, puisqu'ils allaient à la cinémathèque du bis. C'est après la VHS et après le DVD, ils allaient voir les copies qui étaient enfin respectées, peut-être avec le DVD plus qu'avec la VHS, puisque c'était encore très branquignol.
Donc la cinémathèque a tué un peu le Brady, et puis les toilettes sont plus propres à la cinémathèque.
Oui, voilà, c'est ça.
Tandis, et puis cette salle, c'est aussi, alors il y a 100 places, 100 fauteuils,
oui.
Et puis les toilettes sont derrière l'écran, c'est pas ce qui s'y passe, enfin c'est pas toujours très très clair. Ça ressemble à des salles londoniennes aussi, enfin c'est de ce point de vue-là, une influence britannique très forte, avec un public homo-hétéro, plus homo qu'hétéro souvent.
Oui.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est le côté Bruegel, ou même, on pourrait dire presque Jérôme Bosch, de cette faune incroyable que vous décrivez, et tous ces personnages, c'est-à-dire Django, Azzedine, qui va à la BPI, il va tout même lire
c'est
à la BPI,
concierge,
Azzedine, Cabouret, enfin, il y a le projectionniste, il y a Jean, enfin, il y a tous ces personnages qui prennent une vie tout à fait autonome.
Oui, c'est, en fait, à la base, le livre, c'était sur eux. C'est-à-dire que le cinéma, comme c'était un cinéma, il fallait vraiment que je parle du côté mythique du cinéma. Mais à la base, c'était des amis. En fait, parfois, je décris ça comme du gonzon journaliste, mais j'étais pas journaliste. J'étais avec eux, en fait. Donc, du coup, ça change le. J'avais accès à des choses que certains journalistes qui allaient tout le temps pour voir les films n'ont pas vu, parce qu'ils regardaient les films. Et donc, j'ai appris des choses à certains journalistes, enfin modestement, puisque je. Je prétends pas avoir un avis très intéressant sur le cinéma, mais je décris les à côté du cinéma, la vie des copies, la vie des films, ce qui peut leur arriver.
Alors parlez-nous par exemple de Django que Tarantino aurait sûrement aimé rencontrer.
Alors Django, alors c'est un pied noir d'Algérie d'origine napolitaine qui était bifin, donc il faisait les poubelles la nuit, et puis le jour, il oscillait entre le café et le brady, où il regardait les films, où il dormait, enfin voilà, donc c'était... On lui gardait ses papiers pour qu'il les perde pas, et puis... c'était un personnage... Il avait toujours des répliques définitives, assez comiques, enfin c'était très... Il y a des moments, j'étais avec eux et je me disais, mais... pourquoi j'ai pas une caméra dans le cerveau pour filmer tout ça, quoi? Parce qu'on pouvait pas les filmer. Il y avait plein de proxénètes, de prostituées, tout ce qu'on veut, pickpockets. Donc, c'est pas des gens qu'on peut filmer facilement, mais.
Et alors, et Azzedine, alors?
Alors, Azzedine, c'était le concierge. Donc, il entendait les films toute la journée, depuis sa guérite. Concierge du passage d'à côté. Et en même temps, il était très cinéphile. Il aimait que certains westerns. Alors, enfin, c'est un paradoxe. À la fois, il y a beaucoup de scènes dans le livre où il paraît très vulgaire, limite idiot. Et puis, en fait, il va à la bibliothèque Beaubourg pour s'instruire. Il regarde Arte. Il veut pas regarder les autres chaînes parce qu'il trouve ça nul. Donc, j'aime bien les paradoxes. Et comme le portrait de Mocky que je fais, il est plein de paradoxes. C'est ce que j'aime dans ce personnage. C'est qu'on peut pas le réduire. Enfin, ce qu'on voit à la télé, c'est qu'une facette de son personnage. Quand on voit ses films, même quand on voit quelques films, on n'a pas toutes les données.
Est-ce qu'il y a eu un retour de certains de ces personnages qui ont lu votre livre?
Alors, Azzedine, par exemple, il ne veut pas le lire.
Azzedine ne veut pas le lire, mais il peut le lire à la BPI.
Dernièrement, on a voulu lui offrir, et il m'a dit « Oh, mais j'ai pas l'électricité chez moi, je ne peux pas le lire, je le lirai à la bibliothèque.
» Et s'il écoute cette émission, Azzedine va certainement... le lire parce que ça se lit d'une traite. Donc je rappelle le titre, Jacques Torrence, de votre livre, Le Brady, cinéma des damnés. Ça s'était appelé aussi L'Antre de l'épouvante, Le Brady, je crois.
Oui, le temple.
Donc, voilà, ouais. aux éditions verticales, donc Le Brady, cinéma des damnés. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, à la prise de son Julien Douminc. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Et dans quelques instants, ce sera Une vie, une œuvre de Perrine Kervran.